Et on commence avec les grands titres de l'actualité. Donc pour ce 3 mars, lourde attaque contre l'ambassade de France à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Le bilan provisoire fait état de 8 morts. Donald Trump qui renforce les taxes pour l'acier et l'aluminium, entre 10 et 25% de frais de douane aux États-Unis. Et très grand réseau de drogue démantelé entre l'Argentine et la Russie via ses ambassades. Nous débutons donc ce journal avec des attaques à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, donc qui ont visé l'ambassade de France dans le pays, ainsi que le quartier général des forces armées burkinabées. Le bilan fait état de 8 morts. Retour sur le déroulement des faits avec Julie Vandal.
Il est 10h à Ouagadougou quand des tirs résonnent dans le quartier de l'ambassade de France et de la primature. Quelques minutes plus tard, des témoignages font également état d'une explosion près de l'état-major des armées burkinabées. Une épaisse fumée noire s'échappe de la zone. Paul était non loin de l'avenue de l'Indépendance. Il raconte avoir vu des hommes forcer l'entrée de l'ambassade de France.
Il y a un véhicule qui s'est garé et a quatre jeunes de moins de 25 ans. Ils sont descendus avec des sacs et des calages. Ils étaient vraiment équipés, ils étaient lourdement armés. Ils ont essayé un premier temps de rentrer dans l'ambassade de la France, côté Est. Et là-bas, il y a eu des tirs. C'est comme si, en premier temps, ils ont visé l'ambassade de la France.
Il est 11h, les tirs s'intensifient, la ville est quadrillée. Sur son compte Facebook, la police burkinabé indique qu'une attaque armée est en cours. Des unités de gendarmerie et de l'armée sont très vite déployées sur les lieux. Un hélicoptère survole la ville. Bertrand, un Français, travaille à proximité de l'état-major. Joint ce vendredi à 12h local, il revient sur ce qu'il a entendu.
Une grande explosion et le bâtiment entier a tremblé. Certaines vitres se sont cassées et s'en sont suivis rapidement quelques tirs d'armes automatiques. La plupart des gens sont descendus rapidement au sous-sol de ce bâtiment pour se protéger.
À partir de 13h30 local, la situation a progressivement été contenue. L'armée burkinabé a encerclé le périmètre des attaques et mené des opérations de ratissage.
Et c'était Julie Vandal. Donc pour RFI, on écoute le ministre de la Santé du pays, Nicolas Méda. Il était au sortir d'une visite des blessés dans l'hôpital.
On est venu ici au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo exprimer la solidarité nationale aux blessés que nous avons vus. Il y a essentiellement des blessés légers ici à l'hôpital Yalgado. Et bien sûr, il y a un processus de prise en charge complète des blessés, des familles. Et c'est Madame la ministre de la Solidarité nationale qui agit dans ce sens. Les services de santé sont autour des blessés et tous les soins sont prodigués gratuitement pour les blessés. Essentiellement des victimes militaires, mais il y a deux ou trois civils ici, essentiellement liés aux accidents, liés à la panique ou aux éclats ou aux balles perdues.
Combien de personnes sont
ici? C'est 12. Au niveau du centre hospitalier du camp Sangoulé-Lamizana, il y a un certain nombre de blessures légères. Au niveau de l'hôpital national Blaise Compaoré, il y a aussi un certain nombre de blessés. Et c'est surtout à ce niveau qu'il y a des blessures sérieuses. C'est des blessures à l'abdomen par balle, c'est des fractures graves. Et donc, nous les prenons en charge et certains même nécessiteront des évacuations sanitaires.
Voilà donc le ministre de la Santé du Burkina Faso, Nicolas Méda. Donald Trump déterre la hache de guerre économique. Les guerres commerciales sont bénéfiques et elles sont faciles à gagner, déclare-t-il sur Twitter. Et c'est pour annoncer la mise en place de taxes et de frais de douane sur certains produits industriels comme l'acier ou encore l'aluminium. Et en Europe, on s'insurge contre ces mesures. Écoutez la réaction d'Eurofer, c'est la Fédération des entreprises sidérurgistes européennes.
C'est une mesure absurde, tout simplement. Nous ne savons vraiment pas pourquoi il a décidé de prendre une mesure si large, une mesure large comme ça, qui impacte aussi sur les alliés des États-Unis. Ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant pour nous. Il y aura l'impact indirect, vu l'effet de redirection des produits qui allaient être exportés vers les États-Unis, qui maintenant vont revenir vers l'Union européenne, qui va probablement avoir un effet sur les prix et qui va certainement faire descendre les marges des producteurs européens. Donc il y aurait des grands effets directs et indirects, mais à l'instant, c'est très difficile à dire exactement, sauf qu'il y aura certainement un impact sur les emplois s'il n'y a pas de mécanisme de sauvegarde mis en place rapidement par l'Union européenne.
Et c'était donc Charles de Lusignan, le porte-parole d'Eurofer, la fédération des entreprises sidérurgistes européennes. De son côté, la Chine s'insurge également. On écoute la porte-parole des affaires étrangères chinoises, Hua Chunwing.
The US has already taken at least 100 countermeasures against imported steel and aluminium products, providing excessive protection for domestic markets. If all countries follow the US example, this would result in a serious impact on the international trade order.
La porte-parole des affaires étrangères chinoise, Hua Chunwing. Cette décision inquiète à l'étranger, on le comprend, mais elle inquiète également aux États-Unis directement. De nombreux secteurs ont besoin de l'acier et de l'aluminium d'importation, comme l'explique Lionel Fontanier, professeur de l'École d'économie de Paris.
Il est évident que si les États-Unis en importent moins, ils vont devoir en produire plus. Et donc, pour protéger quelques emplois dans ces secteurs, les États-Unis vont mettre en danger les utilisateurs d'acier et d'aluminium, que sont l'industrie automobile, l'industrie des infrastructures américaines et puis les industries de défense elles-mêmes. Donc, c'est un paradoxe, parce que ce sont les secteurs que Trump veut développer qui vont souffrir le plus de la mesure. Et si l'on regarde l'exemple de 2002, vous savez, c'est la dernière fois que les États-Unis ont protégé l'acier, c'était Bush à l'époque. L'acier avait été protégé en réalité pendant une période très courte, de mars 2002 à décembre 2003. Eh bien, ça avait coûté 200 000 emplois industriels aux États-Unis. Donc, les effets potentiellement dévastateurs de cette mesure sur les États-Unis sont grands, sans même parler des conséquences pour les partenaires commerciaux des États-Unis. L'analyse économique plus avancée, qui consiste à dire que les industries qui utilisent l'acier et l'aluminium vont y perdre, évidemment, n'a pas été évoquée par Donald Trump.
Et c'était Lionel Fontanier, professeur à l'École d'économie de Paris. En Europe, les négociations sur le Brexit continuent et Theresa May, la première ministre britannique, demande à l'Union d'exercer plus de flexibilité dans les discussions. On écoute Theresa May.
So my message to our friends in Europe is clear. We know what we want. We understand your principles. We have a shared interest in getting this right. So let's get on with it.
Voilà, donc Theresa May, la première ministre britannique. On écoute le reportage de Muriel Delcroix depuis Londres.
Se sachant attendue au tournant par ceux qui réclament une vision réaliste de l'après-Brexit, Theresa May s'est voulue pragmatique. « Nous quittons le marché unique, la vie va être différente », a reconnu la première ministre, avant d'ajouter que lors de ces négociations, aucune des deux parties n'obtiendrait tout ce qu'elle voulait. L'accès au marché unique notamment sera moindre qu'il ne l'est aujourd'hui, le Royaume-Uni continuera à être affecté par les décisions de la Cour européenne de justice et il devra aussi continuer à contribuer financièrement pour rester au sein de certaines agences européennes. Alors en retour, Theresa May appelle Bruxelles à faire également des compromis et défend l'idée d'un accord commercial le plus large possible, couvrant plus de secteurs et avec davantage de coopération que n'importe quel autre accord de libre-échange. En clair, Theresa May a à nouveau évoqué un accord sur mesure qui irait plus loin que celui signé avec le Canada, mais serait moins contraignant que celui signé avec la Norvège. Une demande qui pourrait cependant être encore une fois perçue par les 27 comme une tentative de Londres de conserver les mêmes avantages à l'extérieur de l'Union européenne. Enfin, autre bémol, sur la façon d'éviter une frontière visible entre les deux Irlandes, la Première ministre n'a fait aucune nouvelle proposition au risque de décevoir les attentes des Européens.
Et c'était Muriel Delcroix pour RFI depuis Londres. En Espagne, la situation constitutionnelle est bloquée car le président de la Catalogne, actuellement en exil en Belgique, renonce temporairement à la présidence de l'exécutif catalan. Il cède sa place à Jordi Sanchez, mais ce choix pose question puisque Jordi Sanchez est actuellement en prison. Écoutez Benoît Elistrandi, il est historien et spécialiste de l'Espagne. Pour lui, ce blocage peut durer.
Cette situation de blocage pose un problème parce que on n'a toujours pas de président investi et on n'a pas de date non plus de débat d'investiture. C'est-à-dire que le Parlement élu le 21 décembre est une sorte de Parlement fantôme à l'heure actuelle. Il y a des élus qui sont légitimes, mais ils ne peuvent pas exercer leur fonction de député du Parlement catalan. Et l'opposition est elle-même assez furieuse de ce blocage qui est propre aux indépendantistes. Tout ça, c'est assez compliqué parce que il faut que chez les indépendantistes, il y ait la reconnaissance de l'échec de la stratégie précédente. Et aucun ne veut l'assumer. Ce qui est clair quand même, c'est qu'on a passé un cap. Puigdemont est en train de céder, mais il cédera très progressivement, très lentement. Et peut-être y aura-t-il un moment, un point de rupture avec ses partenaires de la gauche républicaine catalane. L'analyse que je fais au jour d'aujourd'hui, c'est que le bras de fer à l'intérieur du camp indépendantiste n'est pas encore achevé et que la gauche républicaine catalane veut vraiment lever définitivement l'hypothèque Puigdemont pour pouvoir passer à une nouvelle phase de l'action politique et gouvernementale en Catalogne.
Et c'était Benoît Elistrandi, donc historien et spécialiste de l'Espagne. 13h10, Andrei Kokachuk, c'est son nom, l'homme présumé, eh bien, il est présumé être comme le cerveau d'un énorme trafic de drogue entre l'Argentine et la Russie. Il a été arrêté en Allemagne la nuit dernière. Moscou souhaite obtenir son extradition. Une affaire digne d'un roman d'espionnage. Elle a débuté avec la découverte en décembre 2016 de valises remplies de drogue dans une école, l'école de l'ambassade russe à Buenos Aires. Anastasia Becchio.
Les 389 kilos de cocaïne dissimulés dans 16 valises avaient été découverts par la police argentine sur dénonciation de l'ambassadeur russe Victor Corneli. La marchandise avait été entreposée dans une école située dans un bâtiment annexe de la représentation diplomatique russe. Pour tenter de démanteler la filière, les policiers argentins avaient alors remplacé la drogue par de la farine et avaient mis des puces de géolocalisation dans les valises. À l'arrivée du chargement en Russie, 5 personnes avaient été interpellées, 2 en Argentine et 3 en Russie. Parmi elles, Ali Abianov, un ancien employé de l'ambassade russe de Buenos Aires. D'après son témoignage, recueilli par les enquêteurs russes et rapporté par le quotidien Commerçante, Andrei Kovalchuk, l'homme arrêté près de Berlin, l'avait à plusieurs reprises chargé d'envoyer des valises par courrier diplomatique et ce depuis 2012. Il s'était alors présenté à lui comme employé des services de sécurité de l'ambassade de Russie en Allemagne, ce que réfute le ministère russe des Affaires étrangères. Andrei Kovalchuk nie tout trafic de drogue et affirme que les valises qu'il a déposé à l'ambassade russe ne contenait que du café et des statuettes achetées en Uruguay. Selon l'agence de presse Interfax, Moscou veut maintenant obtenir son extradition. La procédure pourrait prendre des mois.
C'était Anastasia Becchio. Les Césars en France, la grande messe du cinéma français. Cérémonie ouverte par Vanessa Paradis qui a placé la soirée contre la lutte donc sur les violences faites aux femmes. Du côté du palmarès, meilleur film pour 120 battements par minute, BPM, qui est présent d'ailleurs au Festival du film français des Alliances françaises à travers le pays. Et dont nous avons une belle interview sur notre site internet. Retour sur le palmarès avec Catherine Titran.
L'acteur argentin Nahuel Pérez Biscayart, grand favori, a été distingué par le prix du meilleur espoir masculin au César pour son rôle de militant d'ACT UP séropositif dans 120 battements par minute de Robin Campillo, un film qui a également été récompensé du César du meilleur film. Et la récompense pour la meilleure réalisation, elle, a été attribuée à Albert Dupontel pour Au revoir là-haut. Jeanne Balibar est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Barbara et Swan Harlow, lui, a été sacré meilleur acteur pour son interprétation dans Petit Paysan.
Et c'était donc Catherine Titran. Beaucoup donc de ses films, vous l'avez deviné, sont présents sur le Festival du film français à travers le pays. Un mot de sport pour conclure ce journal. Et la victoire dans le derby de Melbourne des Victory face à Melbourne City. Le score, c'est 2-1. On écoute Kevin Muscat, l'entraîneur de Melbourne Victory. Il est plutôt content.
We defended, real aggressively with real determination. And then when we got the ball, when we broke things down, we were, very dynamic, unbelievably dynamic in attack, and threatened on a number of occasions.
C'était Kevin Muscat, l'entraîneur de Melbourne Victory. Point météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 30 degrés. Adelaide, 26. Melbourne, 31. Hobart, 25. Canberra, 31. Sydney, 28. Brisbane, 30. Cairns, 30. Et Darwin, 33 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Donc en ce 3 mars, lourde attaque contre l'ambassade de France à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le bilan fait état de 8 morts. Donald Trump qui renforce les taxes sur l'acier et l'aluminium, entre 10 et 25% de frais de douane. Et très gros réseau de drogue démantelé entre l'Argentine et la Russie via ses ambassades. On vient de l'entendre.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench